Bonjour.
Deux morts et au moins quatre blessés dans une attaque au couteau ce matin dans la Drôme à Romans-sur-Isère. Un homme a frappé au hasard dans un commerce et dans la rue avant d'être interpellé. Circulation minimum sur les routes de France pour le premier week-end des vacances de Pâques en zone C. Les consignes ont été globalement respectées, la peur du gendarme aidant. D'autant que les locations touristiques ont été quasiment partout interdites sur le littoral. Par ailleurs, un changement de ton général s'observe sur le port des masques. Le président Trump aux États-Unis appelle ses concitoyens à se couvrir le visage. Le directeur général de la santé en France encourage le grand public à porter des masques, comme le recommande désormais également l'Académie de médecine. Invité de ce journal, François Bricaire, membre de l'Académie de médecine, qui appelle également le gouvernement à généraliser les prescriptions de chloroquine. Dans ce journal également, l'envolée du chômage partiel qui concerne aujourd'hui 5 millions de salariés. Attention au système D, à l'utilisation mal à propos des produits désinfectants potentiellement dangereux. Et puis le Conseil Culture Loisirs de ce nouveau week-end de confinement, une mini-série allemande qui fait un carton sur Netflix. Enfin, la météo, dommage. Du soleil et de la douceur pour tout le monde, des températures dignes d'un mois de mai, nous annonce Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Une attaque au couteau a donc eu lieu ce matin dans la Drôme à Romans-sur-Isère. Un homme a été interpellé après avoir poignardé plusieurs passants. Deux personnes ont été tuées. Ariane Grissel, que sait-on précisément de plus à cette heure-ci ?
Alors cette attaque a fait deux morts effectivement et sept blessés, un bilan qui est encore susceptible d'évoluer puisque certaines personnes sont gravement touchées. L'assaillant est un demandeur d'asile de nationalité soudanaise âgé de 33 ans. Il s'en est pris aux passants au milieu de matinée dans le centre-ville de Romans-sur-Isère. D'abord près d'une boulangerie avant d'avancer dans les rues, entrer dans les commerces ouverts et frapper ceux qui l'y croisaient. Il a été interpellé vers 11h. À ce stade, impossible de dire pourquoi cet homme a commis un tel geste. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Lyon. Le parquet national antiterroriste est en train d'évaluer la situation en lien avec le parquet de Valence pour voir s'il se saisit ou non de cette attaque. Pas de décision à ce stade. Attaque donc qui a fait, on le rappelle, deux morts et sept blessés ce matin dans le centre-ville de Romans-sur-Isère.
Ariane Grissel, la maire de la commune, Marie-Hélène Toraval, confirme le bilan, précisant à Reuters que l'assaillant interpellé a été légèrement blessé. Il serait âgé d'une trentaine d'années et ne serait pas connu des services de police. Des flux routiers vraiment minimes pour ce premier jour des vacances scolaires dans la zone C, région parisienne notamment. Les consignes de rester chez soi ont été globalement respectées, si l'on en croit la gendarmerie qui n'y est pas pour rien. Bien sûr, 160 000 gendarmes et policiers ont été mobilisés ce week-end pour empêcher les départs en vacances sur les routes et autoroutes, dans les gares et sur les lieux de vacances où d'ailleurs dans la plupart des cas, les locations touristiques ont été interdites sur l'ensemble du littoral notamment, où partout les préfectures ont pris ou vont prendre des arrêtés en ce sens. Illustration dans les Pyrénées orientales et atlantiques. Cécilia Arbona.
De Bayonne à Hendaye, l'arrêté signé par Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, est clair. Il interdit sur le littoral tout hébergement à vocation touristique. Décision logique et responsable pour le maire sortant de Biarritz, Michel Venac.
Le virus ne part pas en vacances. Donc je trouve que c'est effectivement une bonne chose. Alors ça vient s'ajouter à toutes les mesures qui ont été prises. L'aéroport est fermé depuis maintenant une dizaine de jours. À la gare n'arrive aucun train qui vienne de Bordeaux ou qui vienne à plus forte raison de Paris pour éviter que les vacances soient un moment de transit.
Voilà pour la côte basque. La décision est la même à l'autre bout de la chaîne de montagne, côté Méditerranée. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin, a appelé en personne plusieurs élus ce matin, comme Jacques Magnat, le maire sortant de Collioure.
La saison estivale démarre à Collioure au moment des vacances de Pâques, au moment de la Semaine Sainte, donc je suis sûr qu'il y avait des réservations. Pour ce qui est du contrôle de la municipalité sur ce marché-là, je pense que c'est une illusion. On n'a pas les moyens directs d'agir dessus. Il y a 6000 lits d'hébergement sur la commune de Collioure. On en a 2000 en résidence principale et 4000 en résidence secondaire.
Mais sur la plage de Galets, fermée au public, aucun artiste ne vient peindre le célèbre clocher si cher à Raoul Dufy.
Le début de saison sera repoussé de quelques quelques semaines pour les professionnels du tourisme. On le sait, un secteur du tourisme qui chiffre à plus de 10 milliards les pertes liées au coronavirus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On apprend en marchant. Les formules sont connues et n'ont jamais été aussi vraies qu'en cette période, s'agissant des masques notamment. Ces masques qu'il n'était pas utile de porter au début de l'épidémie et que l'Académie de médecine propose de rendre obligatoires aujourd'hui pour toutes les sorties. On va y revenir. Le gouvernement français avait déjà infléchi sa position en annonçant la fabrication de masques alternatifs pour le grand public, ce qu'a confirmé dans son intervention quotidienne hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
La France, que vous le savez, a fait le choix de produire sur son territoire national, certes des masques pour les soignants, certes des masques pour les malades, mais aussi des masques dits alternatifs. Tous ces masques permettent de se protéger des postillons, de se protéger quand on est en face-à-face, parce que je rappelle que les transmissions gouttelettes se font en face-à-face à moins d'un mètre. Et donc si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. C'est une position de l'Académie de médecine qui est très intéressante, puisque l'Académie nous soutient. Et donc on va peut-être voir des changements de comportement au sein des foyers français, si les Français veulent s'équiper de ces types de masques alternatifs, sans oublier qu'ils ne remplacent pas les gestes barrières, le lavage des mains et la distanciation sociale.
La situation évolue, les opinions aussi, même si l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'en tient encore à sa position initiale. L'OMS qui craint qu'un port généralisé du masque fasse oublier les gestes barrières indispensables. Malgré tout, les discours officiels sont en train de changer, comme aux États-Unis où le président Trump conseille aux Américains de se couvrir le visage.
Des études récentes montrent que la transmission du virus se fait aussi par des gens sans aucun symptôme. En conséquence, les centres de contrôle et de prévention des maladies recommandent désormais pour tous l'usage de masques non médicaux comme mesure de santé publique supplémentaire pour ceux qui le veulent. Donc c'est sur la base du volontariat, vous n'y êtes pas obligé. Personnellement, je ne pense pas que je vais le faire.
I don't think I'm going to be doing it. Alors, il ne va pas le faire, mais malgré tout, c'est une volte-face, la plus spectaculaire sans doute, cette volte-face du président Trump, qui n'avait pas vu la gravité de la situation au départ. Il n'est pas le seul, Eric Biegela. Hein. Sur tout le continent américain, comme en Europe, on durcit peu à peu les consignes.
Oui, absolument. Et même l'Organisation mondiale de la santé semble sur le point d'abonder dans le même sens. L'idée de porter un masque pour empêcher la propagation de l'épidémie n'est pas une mauvaise idée en soi. La remarque hier soir par le docteur Mike Ryan, l'expert en situation d'urgence de l'OMS, indiquait sans doute assez clairement le début d'une volte-face. L'OMS, en tout cas, ne proscrit plus l'usage du masque pour tous. Mais c'était aux États-Unis, vous l'avez entendu, qu'on a le plus clairement hier recommandé à tout le monde de se couvrir le visage lorsqu'on sort à l'extérieur, y compris avec une simple écharpe. En Autriche, le port d'un masque sera obligatoire à partir de lundi pour toutes les personnes faisant leurs courses au supermarché. Et en Allemagne, l'Institut Robert Koch, l'équivalent de l'Institut Pasteur, recommande lui aussi, dorénavant, de porter en public des masques faits maison. Son président estimant plausible que de tels masques limitent la propagation du virus.
Alors toutes ces tergiversations, Eric, sont incompréhensibles pour les Asiatiques qui, eux, sont habitués à porter le masque depuis longtemps.
Oui, absolument. En Asie, on porte le masque à tout bout de champ, si vous me passez l'expression. Mais toutes ces institutions considèrent pourtant encore que le port du masque devrait être du masque chirurgical devrait être réservé aux seuls professionnels de santé. Et car il y a encore clairement une véritable pénurie de ces matériels-là et une véritable foire d'empoigne au niveau mondial pour en récupérer. L'Inde et les États-Unis viennent d'ailleurs d'interdire l'exportation de ces masques à partir de leur territoire. Mais l'essentiel de la production mondiale s'effectue en Chine. C'est en Chine, auprès des courtiers autorisés à négocier ces exportations, que les différents pays enchérissent et parfois même surenchérissent pour s'approprier telle ou telle production. Les masques chirurgicaux sont donc toujours réservés aux professionnels de santé. Les recommandations pour le public général sont simplement de se couvrir les voies respiratoires avec des masques faits à la maison ou simplement avec un foulard.
Éric Biegela, invité de ce journal, François Bricaire, infectiologue, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie de médecine. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors des masques pour tous, oui ou non, c'est utile ou pas?
Bah écoutez, comme ça vient d'être évoquez, oui, ça peut être un complément tout à fait efficace pour transmettre du virus. Si on est porteur du virus, et on sait que beaucoup de sujets sont porteurs asymptomatiques, quand on est malade ou qu'on vient d'être malade, on peut encore excréter du virus. En d'autres termes, tout ce qui est une barrière est sûrement quand même quelque chose de positif. Dire que ces masques dits alternatifs, qui sont faits avec différents matériaux, sont forcément d'une très grande qualité, c'est peut-être un peu excessif, mais même si ça, c'est une première barrière au virus, eh bien je pense qu'il faut, au niveau de l'ensemble de la population, le proposer.
Donc des masques, fussent-ils alternatifs, c'est mieux que rien. Est-ce que les écharpes, les bandanas, comme on l'entend dire aussi, c'est important, c'est utile?
Ça peut être sans doute utile. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens, et depuis longtemps, qui se promènent en mettant une écharpe devant leur bouche. C'est automatiquement un arrêt potentiel de particules virales, même si ça n'est pas absolu.
Il n'y a pas de risque d'être moins vigilant sur les gestes barrières, hein, parce qu'en portant un masque, on croit pouvoir se rapprocher des autres. C'est ce que craignait l'OMS.
Oui, alors il faut faire attention. Hein. Sûrement, ça ne doit pas en aucune façon diminuer l'importance des gestes barrières.
Alors, les évolutions ne sont pas toujours des revirements, expliquait ce matin le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en soulignant qu'il y a des choses qu'on n'a pas décidées il y a plusieurs semaines parce qu'on ne savait pas et qu'on peut le décider aujourd'hui parce qu'on a des données supplémentaires. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oh oui, depuis le début, on dit qu'un phénomène épidémique, ça évolue, qu'on apprend au fur et à mesure un certain nombre de choses, qu'on a des preuves scientifiques qu'on n'avait pas au départ, etc. Et tout ceci doit entraîner des adaptations aux mesures qui sont prises. Et donc, on doit modifier des choses et on en modifiera encore. Et c'est en évoluant dans le phénomène épidémique et la façon dont on le gère qu'on pourra prendre de nouvelles mesures, oui.
Alors parmi les choses qu'on ne sait pas non plus, c'est la durée de l'épidémie, le pic de l'épidémie qu'on annonce toujours pour les prochains jours. Le même directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France évoquait ce matin maintenant le 25 avril, donc beaucoup plus loin qu'on ne l'avait dit au départ.
Écoutez, je ne sais pas, j'ai une petite idée, mais je ne peux pas l'exprimer parce que j'ai pas de preuve du tout. C'est aléatoire de vouloir donner des dates. Vous remarquerez que dans certains endroits, on vous dit que pour la France, ça pourrait être la semaine prochaine, et puis certains vous diront que c'est plus tardif. On s'appuie sur les données des autres en matière de pays comme l'Italie qui a une avance sur nous et qui constate actuellement le plateau, ce qui est un élément positif. Je crois qu'il y a aussi des différences entre les territoires, les géographies. C'est pas sans doute la même chose dans le Grand Est et ça sera pas la même chose dans l'Ouest. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il faut être très très prudent pour se prononcer sur la date du pic.
Alors, autre débat, François Bricaire, sur la chloroquine, vous signez un appel intitulé « Ne perdons plus de temps », un appel qui invite le gouvernement à généraliser la prescription de ce médicament controversé, appel lancé notamment par l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy, signé aussi par l'urgentiste Patrick Peloux. Alors, un membre de l'Académie de médecine, comme vous, qui propose de s'affranchir du protocole médical, c'est pas banal ?
Non, alors attendez, soyons très, très clairs. Premier point, moi je fais partie de ceux qui sont d'accord avec le fait qu'il faut impérativement faire des études et mener ce qui est prévu pour essayer de déterminer si oui ou non la chloroquine est efficace. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, il n'est pas proposé de libéraliser l'hydroxychloroquine à travers cette demande. C'est de mettre à disposition des pharmacies hospitalières, donc en milieu hospitalier, la chloroquine, pour que si des médecins veulent l'utiliser pour leurs malades au moment où ils ne sont pas encore dans des formes sévères, ils puissent en âme et conscience le faire. Mais, et c'est aussi très 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 important, il n'est pas question de libéraliser la prescription d'hydroxychloroquine ou de chloroquine très largement, de façon non contrôlée. Il faut impérativement que la surveillance soit médicale, d'où j'insiste sur le fait que c'est dans les pharmacies hospitalière. Et on le fait, ou je signe cette demande d'autant plus volontiers que nous n'avons rien d'autre à proposer actuellement, qu'on est en phase épidémique, qu'un certain nombre de malades peuvent souffrir d'une évolution éventuelle vers des formes plus sévères, et que par conséquent, même si on n'a pas la preuve, sachant qu'il y a un doute, qu'il y a des travaux en Chine, plus ceux du professeur Raoul qui s'expriment en faveur de ce médicament, à titre, je dirais, éthique, et aussi en tant que clinicien, je pense que le doute doit bénéficier aux malades.
Bien compris. Bien compris. Merci beaucoup. François Bricaire, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie de médecine. Quoi qu'il en soit, en attendant les médicaments, les masques, en attendant attention au système D, en cette période de confinement, tous les moyens sont bons, semble-t-il, pour se désinfecter ou désinfecter la maison, mais gare aux mauvaises solutions, du genre le lavage des aliments à l'eau de Javel. Après plusieurs alertes des centres anti-poison, l'Agence nationale de sécurité sanitaire rappelle un certain nombre de règles de base dans l'utilisation des produits potentiellement dangereux. Faustine Calmels.
Au premier rang desquels, l'eau de Javel, désinfectant par excellence, mais pas bon pour tout ni n'importe comment. Ceux qui ont voulu la mélanger avec du détartrant pour nettoyer la maison s'en sont aperçus. Cela peut générer des vapeurs de chlore toxiques. Même chose si l'on tente de laver ses fruits et légumes avec, voire de se nettoyer les mains ou le corps, à proscrire absolument. L'eau de Javel, c'est un excellent virucide, mais c'est aussi un poison pour l'homme, comme l'alcool à brûler. L'Agence de sécurité sanitaire met aussi en garde sur les produits faits maison, comme le gel hydroalcoolique. Il faut scrupuleusement respecter les dosages et les conditionner dans des récipients bien étiquetés. Le risque de se tromper est grand. Plusieurs cas ont été rapportés pour les enfants qui restent à la maison comme pour les adultes. Et puis, dernière alerte sur les huiles essentielles. L'ANSES rappelle qu'elles ne sont pas un moyen de lutte contre le Covid-19, que les femmes enceintes ou les personnes asthmatiques doivent s'abstenir de les utiliser et qu'elles ne permettent pas, ça a été essayé, de désinfecter les masques chirurgicaux.
Eh oui, les huiles essentielles qui ne se consomment pas par voie orale non plus, comme on l'a vu. Ça ne fait plus partie des priorités sans doute, mais la question des municipales reste en suspens. Le deuxième tour pourra-t-il se faire en juin? Comme annoncé, ce sera plus vraisemblablement à l'automne pour les communes où l'élection n'a pas été jouée le 15 mars. Pas question de prendre le moindre risque. De nombreux assesseurs ont été malades à l'issue du scrutin, de nombreux élus également, comme le maire et conseiller général de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine, Laurent Vastel, atteint d'une forme sévère de Covid-19, vient de sortir de l'hôpital, guéri, mais à quel prix, Jérôme Val?
Quand il entre à l'hôpital Percy de Clamart le 22 mars, Laurent Vastel est en détresse respiratoire. Après plusieurs jours de forte fièvre, il reste hospitalisé 10 jours. Presque une chance, reconnaît l'élu aujourd'hui.
Quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis clairement posé la question de savoir si j'allais quand même pas y laisser ma peau, quoi, me confronter à sa mort. Hein. Donc voilà, on était trois admis en même temps dans le service. Il y en a un qui est mort, l'autre est encore en réanimation, il est intubé, toujours éventilé, et moi, je suis passé au travers.
Le maire de Fontenay-aux-Roses, âgé de 60 ans, est rentré chez lui il y a 3 jours, amaigri et fatigué, mais guéri. Pendant son séjour à l'hôpital, milieu qu'il connaît bien puisqu'il y exerce en tant que chirurgien orthopédiste, il a pu mesurer les conditions de travail des soignants dans un contexte lourd avec des services saturés, mais des personnels qui font face.
C'est un événement qui nous dépasse et malgré tout, je trouve que le système hospitalier, il fait face. Hein. On est dans un tsunami sanitaire et malgré tout, pour l'instant, tout le monde est soigné à peu près correctement. Moi, je trouve que c'est assez remarquable.
Laurent Vastel a ressenti les premiers symptômes du Covid le soir du premier tour des élections municipales. Il était donc porteur du virus les jours précédant le scrutin. Le maintenir a été une erreur, selon l'élu centriste.
C'est sans doute une erreur politique fatale. C'est la campagne, en fait, qui a fait qu'on a été contaminé assez largement. C'est incontestable qu'on ne peut pas faire campagne sans serrer des mains. Quoi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens dans les listes qui se présentaient aux élections qui soient contaminés, quand même. Nous, on a quasiment un tiers de la liste qui a fait le Covid. Hein.
Le premier adjoint de Fontenay-aux-Roses, lui aussi atteint, est toujours dans le coma.
Sur le front social, le chômage partiel continue de progresser selon les chiffres annoncés par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Plus de 470 000 entreprises ont eu recours à ce jour au dispositif mis en place par le gouvernement, soit 5 millions de salariés, un quart du secteur privé. C'est du jamais vu, Delphine Simon, une situation qu'il va falloir financer, bien sûr.
Pour couvrir les salaires, Bercy a prévu au départ une enveloppe de 8,5 milliards d'euros sur 2 mois. Elle a depuis été réévaluée à 11 milliards pour 3 mois. Mais ce coût du chômage chômage partiel pourrait être nettement plus élevé selon les économistes de l'OFCE. Entre les secteurs fermés pour raisons sanitaires et la chute de la demande, l'OFCE calcule qu'un tiers des salariés du privé pourraient être concernés. Si 100% des entreprises y ont recours, le coût pour les caisses de l'État grimperait alors à plus de 21 milliards d'euros par mois. Dans ses calculs, l'OFCE tient compte en plus des salaires du manque à gagner des cotisations sociales non payées. Certes, toutes les entreprises ne feront pas appel à l'aide de l'État, dans le luxe ou la banque. Certaines demandes pourraient aussi être refusées. Même dans ce cas, calcule l'OFCE, la facture s'annonce très lourde, voire astronomique. Bruxelles propose déjà une garantie de 100 milliards d'euros aux États qui auront besoin d'emprunter massivement pour financer leur plan de sauvegarde de l'emploi.
Delphine Simon, de son côté, la direction de PSA propose au syndicat la création d'un fonds de solidarité pour compenser la perte de salaire liée justement au chômage partiel, un fonds qui serait alimenté par le don d'un jour de congé ou de RTT, de deux jours pour les cadres, ce qui permettrait de verser 100% des rémunérations nettes aux salariés. Et pendant ce temps, la Convention citoyenne sur le climat poursuit ses travaux. Ce week-end devait être conclusif. Les 150 citoyens tirés au sort devaient aujourd'hui finaliser leur débat de plusieurs mois. Les circonstances en ont bien sûr décidé autrement. Et c'est à distance qu'ils discutent ce samedi pour adapter leurs propositions à la situation de crise, comme l'a confié l'un de nos citoyens témoins, William Aucan, architecte nantais. Il est au téléphone de Célia Kiré.
Si la relance se fait pas dans les bons secteurs et intègre pas la question écologique et environnementale là-dessus, on peut passer à côté du sujet et le travail de la convention finalement aura servi peu. Il y a des choses qui auront nécessité d'être mises en avant et d'autres où il faudra faire attention que ce soit pas des faux atouts. Les secteurs de l'agriculture ont besoin de beaucoup d'aide, les secteurs de la production aussi, dans la manière où peut-être il y aurait une éventuelle relocalisation, ont besoin d'être là aussi soutenus. La protection de la biodiversité, elle est quand même aussi un des éléments sous-jacents et structurants aussi de notre travail. Le fait, par exemple, d'entretenir les forêts, de ne pas autoriser le déboisement, de protéger les terres agricoles qui nourriront demain, c'est pour nous très important. Et la crise du coronavirus liée à la perte de la biodiversité, elle est assez manifeste. Donc c'est urgent, ouais. Le travail de la Convention citoyenne, il est dans ce sens à répondre à l'état d'urgence climatique qui nous est adressé à travers des crises successives.
Une ultime réunion sera programmée, bien sûr, à la fin de l'épidémie pour conclure définitivement cette Convention citoyenne. À noter dans le même genre cette initiative d'une soixantaine de parlementaires qui lance une consultation en ligne pour préparer le jour d'après. Quel système de santé, quel monde du travail, quel avenir pour les territoires. Députés et sénateurs Marcheurs, Modem, PS, écologistes attendent toutes les propositions dont ils feront une synthèse à la mi-mai.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
À l'étranger, on a parlé des États-Unis où les chiffres de l'épidémie s'envolent. 270 000 contaminations, plus de 7 000 morts. Le président Trump a pris conscience de la situation. Un peu plus au sud, au Mexique, le discours officiel reste encore très confus. Le président Obrador, tout en décrétant l'état d'urgence sanitaire, continue de minimiser la crise. Histoire sans doute de remonter le moral de sa population, Emmanuel Stills.
C'est une crise passagère. Le peuple mexicain est extraordinaire et il s'en sortira. À force de lancer des messages optimistes en pleine crise sanitaire, le président López Obrador est accusé de désinvolture. Il continue à voyager à travers le pays, à saluer les gens sans observer de saine distance. Guadalupe Pérez, qui tient une échoppe de nourriture à Mexico, soutient ce président proche du peuple, même si elle le trouve un peu naïf. López Obrador tente de rassurer les secteurs les plus vulnérables, selon la journaliste Blanche Petrich. Mais en agissant de la sorte, il brouille le message de son gouvernement, qui fait preuve d'une toute autre rigueur.
Il y a une équipe de spécialistes chargée par le président de définir la stratégie contre le coronavirus. Il leur a donné toute autorité en la matière. Mais après, lui-même tient des propos contradictoires. C'est une erreur car il empêche la société de comprendre clairement la gravité de la situation.
Au fil des jours, le président se montre plus raisonnable. Il a même exhorté récemment les Mexicains à rester chez eux dans la mesure de leurs possibilités. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
2000 cas de contamination ont été recensés à ce jour au Mexique. Autre exemple de la façon dont chaque pays réagit. En Inde, où la population est confinée, le Premier ministre Narendra Modi appelle à sortir demain soir sur son balcon ou sur le pas de sa porte avec des torches et des bougies à la main pour défier les ténèbres du coronavirus, alors même que l'épidémie commence à gagner les bidonvilles de Bombay, comme Bastin sur place.
C'était la grande crainte depuis le début de l'épidémie en Inde et c'est désormais une réalité. Après deux décès, un troisième cas de coronavirus a été officialisé au sein de Dharavi, le plus grand bidonville de Bombay et d'Asie, rendu célèbre par le film Slumdog Millionaire. Ici, la densité avoisine les 300 000 habitants au kilomètre carré et l'hygiène est déplorable. Une course contre la montre est engagée par les autorités pour éviter que Dharavi et son million d'habitants ne se transforment en foyer infectieux géant. Les résidents, qui ne suivaient le confinement qu'à moitié depuis le 24 mars, sont assignés à domicile pour de bon et le quartier est bouclé. Le bâtiment du dernier cas diagnostiqué, un docteur de 35 ans, est désinfecté pendant que toutes ses fréquentations sont testées. Ce matin, la police vient de lier le premier mort du bidonville de Bombay à un foyer né dans une mosquée de Delhi. Faire respecter les consignes dans les bidonvilles s'annonce compliqué. Les habitants s'entassent à plusieurs par chambre et n'ont parfois accès à l'eau ou à des toilettes qu'à l'extérieur. En plus d'un symbole, Dharavi est donc un test pour tout le sous-continent. Comme Bastin, Bangalore, France Inter.
Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes du samedi à 13h, d'autant moins en situation de confinement. Que voir, que lire, qu'écouter ce week-end? Par exemple, une série, mini-série allemande en 4 épisodes, une orthodoxe, c'est sur Netflix. L'histoire bouleversante d'une jeune femme élevée dans une communauté juive ultra-orthodoxe de New York et qui rêve de liberté, Alexandra Hakoun.
Ne vous fiez pas à son crâne rasé qui lui donne des airs d'oiseau tombé du nid, la détermination d'estier et d'acier.
Arrêtez un peu, elle a pas de cancer. Elle est ultra-orthodoxe. C'est genre des extrémistes juifs. Ils reçoivent même pas de vraie éducation. Les hommes doivent seulement apprendre la Torah et les femmes sont des poules pondeuses.
Sérieux ?
Je ne suis pas une poule pondeuse.
Voilà pourquoi un matin, Esti, 19 ans, a décidé de partir pour Berlin, loin de cette communauté hassidique de Williamsburg qui l'étouffe à la conquête de sa liberté. Elle qui n'avait jamais osé sortir de son quartier.
Williamsburg, ce n'est pas l'Amérique. Tu ignores les règles. Ces règles sont imaginaires. Les hérouves qui clôturent le quartier ne sont pas électriques. Il n'y a pas de douves autour du royaume de Williamsburg rempli de crocodiles. Leur pouvoir est juste dans ton esprit.
Inspirée d'une histoire vraie et tournée majoritairement en yiddish, une première pour Netflix, Unorthodox offre une plongée rare dans cette communauté juive retirée du monde moderne. Par contraste, chaque petite liberté conquise par Esti, la formidable actrice israélienne Shira Haas, donne lieu à des moments de grâce, comme lorsqu'elle se débarrasse à jamais de sa perruque ou ose pour la première fois mettre du rouge à lèvres, jusqu'à un final bouleversant, l'une des plus belles surprises de ce printemps qui devrait vous habiter longtemps.
Un orthodoxe, donc, sur Netflix, un érouve, comme il en était question dans le son, est une clôture qui entoure la communauté juive retirée du monde moderne. En rappelant l'information de la matinée, cette attaque au couteau ce matin dans la Drôme à Romans-sur-Isère, un homme a été interpellé après avoir poignardé plusieurs passants. Deux personnes ont été tuées, 7 autres blessés. Les motivations du suspect n'ont pas encore été établies avec certitude. Premier témoignage, celui de Nathalie, qui vit en face de la boulangerie où a eu lieu le drame sur la place principale de Romans-sur-Isère. Elle a raconté à Cyril Graziani ce qu'elle voyait au moment du drame.
En ce moment, c'est simple. Il y a la place Gailly est fermée par un cordon rouge et blanc. La même chose devant la Micaline, devant le Jean Jaurès. Voilà, il y a encore des policiers. Il y a énormément, à mon avis, ce que je pourrais penser être une cellule de crise sur la place Gailly, parce qu'il y a énormément de camions de pompiers et des gens qui discutent. On a appelé autour de nous les amis qui étaient dans le périmètre. On a personne de blessé. On a un ami qui a vu, parce qu'il a vu des blessés, mais il a pas. Il est rentré vite chez lui, ça l'a beaucoup traumatisé de voir des corps par terre.
Voilà, attaque qui s'est déroulée ce matin vers 11h devant une boulangerie, donc à Romans-sur-Isère. Bilan provisoire de tués, 7 blessés. Le temps, Jean-Michel Golinski.
Du soleil et de la douceur ce week-end pour tout le monde. Les nuages, plus fournis ce matin dans le nord-est, se dispersent rapidement. Et puis cet après-midi, des cumulus sans conséquence vont se former en montagne. Les températures dignes d'un mois de mai vont s'orienter cet après-midi entre 16 et 24 degrés. 16 prévus près de la Manche, 24 sur le Pays Basque, en passant par 18 du Val-de-Loire au bassin parisien, et 19 à 21 en général dans la moitié sud. Demain, encore quelques degrés supplémentaires pour la moitié nord du pays, mettant la barre des maximales vers 21 en moyenne, au nord comme au sud, avec toujours du soleil, mais le vent sera plus sensible qu'aujourd'hui dans le golfe du Lion, la vallée du Rhône et près de l'océan. Et puis, en fin d'après-midi, le ciel va se brouiller sur la pointe ouest, apportant des pluies faibles en soirée.